Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profonds encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon. Bientôt, ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
Savez-vous quoi? J'ai trouvé, c'est l'espoir qui me retient, l'habitude de l'espoir qui me colle à la peau. C'est ça, oui, au fond je me dis, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Ce sont des mots de Jacques Languirand, et si je vois à côté de moi Aline Apostolska qui dit oui, c'est parce qu'elle les a bien reconnus. Jacques Languirand, dont il sera beaucoup question à cette émission, à livre découvert, animé pour vous par Clotilde Seille, à laquelle je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues.
La table des matières.
Alors aujourd'hui, on commencera par l'ami Gérald Cousineau qui va venir nous faire une petite immersion littéraire dans le monde de la Corée du Nord. Je recevrai Aline Apostolska qui est donc déjà auprès de moi en studio. Et puis en début de deuxième heure, si tout va bien, Carmen Lepage viendra nous parler d'un livre de Stéphane Fier qui s'intitule « Une Chinoise ordinaire ». Il y aura la page de littérature qui est un peu la bande-annonce de cette émission. Oui, pour vous annoncer la venue de Jean-François Lépine. La semaine prochaine, nous parlerons du livre Sur la ligne de feu, bien évidemment. Et puis Gaston Loubier, qui est non-voyant, nous parlera, lui, de L'enfant de Noé d'Éric Emmanuel Schmitt. Les nouvelles et les livres, vous savez que je me suis beaucoup reportée, référée récemment aux listes de Pierre Foglia. Et aujourd'hui, je voudrais vous citer les 5 premiers qui ont été cités par le public de la presse il y a maintenant quelques mois. Donc 5 livres que vous devez avoir lus. Mais rassurez-vous, personnellement, je n'en ai lu que 3 sur 5. Et puis, nous finirons bien sûr cette émission par la rubrique de titres en rafale, avec toutes sortes de livres qui viennent juste de sortir au SQLA.
Les livres audio, ils en mangent.
Bonjour Gérald.
Bonjour Clotilde.
Gérald Cousineau, qui nous fait la joie, l'honneur et l'avantage, comme on disait à l'époque au théâtre en France, de venir nous parler d'un livre chaque mois. Et aujourd'hui, Gérald, je n'ai aucune espèce d'idée du livre dont vous venez nous parler, à part une petite recherche vite fait sur Internet. Mais le titre, je l'adore, « Nouilles froides à Pyongyang » de Jean-Luc Coatalem.
Je dirais tout de suite, Clotilde, que « Nouilles froides » c'est le plat, je ne sais pas si c'est le plat national, mais c'est un plat que va goûter Jean-Luc Coatalem, mais il sera un peu déçu. D'ailleurs, il serait déçu de tout le reste aussi. Alors, c'est un journal, d'abord un petit mot sur Coatalem, c'est vrai, c'est oui. Le rédacteur en chef de Géo, donc un monsieur qui se promène beaucoup, particulièrement en Asie. On lui doit, entre autres, « Je suis dans les mers du Sud », un livre que j'ai beaucoup aimé. Mm-hmm. Donc, « Nouilles froides », c'est un journal de voyage, un voyage qu'il a fait au printemps 2011 dans la très, très, très secrète Corée du Nord. Et pour y aller, évidemment, il a dû oublier ou mettre au rencard son statut de journaliste et se prétendre agent de voyage ou quelque chose comme ça.
Okay.
Sinon, il aurait été bloqué à la douane. Alors donc, ce monsieur se prétend agent de voyage, mm-hmm. et avec un ami, il entre donc en Corée du Nord, et tout de suite, qu'est-ce qu'il voit à l'aéroport? Et évidemment, le portrait géant du grand leader.
Ben oui, Kim Jong-un.
Oui, il en verra partout d'ailleurs.
Ah,
alors
oui, ben,
tout
j'imagine.
De suite, on tombe dans le culte de la personnalité, mais c'est absolument mm-hmm. outrancier. On s'en doutait un petit peu, mais là, lui, il est dedans. Coatalem est dedans, là. Alors, il entend des trucs comme « sommet de la pensée » ou « lumière du genre humain »,« père de l'humanité » et autres choses pour flatter la modestie du leader.
Autrement dit, rien n'est exagéré de ce qu'on entend dans les médias lorsqu'il est question de ce charmant personnage et du pays qu'il dirige.
Hélas, non.
Bon.
Donc, ce monsieur, Coatalem, malheureusement, ne peut pas prendre de notes en direct. Il cache, disons, un calepin, et le soir, il prend des notes. Alors, il n'a accès ni à Internet, ni au téléphone, ni aux journaux, parce qu'il faut préciser que son passeport et son portable lui ont été confisqués en arrivant en Corée du Nord, à Pyongyang. Bon, on se protège.
Mais oui.
Alors, il va se promener dans tout le pays. Et évidemment, tout est planifié de façon maniaque. S'il veut le moindrement déroger, oh là là, on lui tape sur les doigts parce qu'il a trois guides qui lui collent aux semelles. D'ailleurs, il les a baptisés amoureusement Kim 1, Kim 2 et Kim 3. On se doute bien pourquoi.
Mais oui, c'est la dynastie des Kim là-bas.
Voilà. Et d'ailleurs, entre autres choses, il va aller dans un musée. Et qu'est-ce qu'il voit dans le musée? Des portraits. Uniquement des portraits des trois leaders. Le grand-père, le fils et le petit-fils. On n'en sort pas.
Alors, et est-ce que c'est à cause d'eux que tout le monde s'appelle Kim? Parce que
ce nom-là? En fait, c'est lui qui baptise ses guides du prénom de Kim, mais il ne s'appelle pas Kim en réalité. C'est lui qui s'amuse à leurs dépens. Donc, c'est un voyage planifié, je l'ai dit, de façon maniaque. Il va se promener de l'est à l'ouest, du nord au sud. Mais c'est une sorte de désolation permanente. Il va parler, entre autres, de la malnutrition. Les gens ont vraiment l'air de ne pas manger à leur faim. Les enfants, encore moins. Il dit que les cochons mangent mieux que les enfants. Et il va parler, bien sûr, de l'omniprésent de l'armée, de la police, les gens qui s'y pillent, qui ne doivent absolument pas parler aux étrangers. D'ailleurs, il fuit carrément dès qu'il voit ces Français. Certains n'ont jamais vu d'autres personnes que les Nord-Coréens. C'est incroyable.
Autrement dit, ils se méfient les uns des autres. On est un petit peu dans l'ambiance de George Orwell, mais en pays asiatique, c'est
d'ailleurs,
un peu ça.
D'ailleurs, il fait le rapprochement avec 1984. Et on pense, si George Orwell vivait aujourd'hui, il aurait le malheur de constater que son roman s'avère. Voilà, alors nous sommes aujourd'hui en Corée du Nord dans le roman 1984. D'ailleurs, parlant de roman, Clotilde, dès le début du livre, du journal de voyage, il fait référence à un roman qui est tout à fait opposé, un livre qui est tout à fait opposé, Mardi de Herman Melville. Et on se demande, mais pourquoi? C'est tout simplement que nos deux Lascars ont apporté, bien sûr, des livres en Corée du Nord, sachant que les librairies ne sont pas très bien remplies là-bas. Alors, ils ont apporté des livres dont Coatalem lit, lui, Mardi de Melville. Or, Mardi, c'est quoi? C'est un roman de soleil. C'est un roman de l'action, se passe dans les mers du Sud. Alors là, le contraste est vraiment frappant entre la grisaille omniprésente en Corée du Nord et ce roman Mardi. Là, vraiment, c'est assez étonnant.
Ah oui. Est-ce que, à tout hasard, avez-vous vérifié si ce livre-là est disponible au SQLA?
Oui, bien sûr, je l'ai écouté. C'est un livre audio du SQLA.
Ah, il existe donc.
Très bien lu d'ailleurs. Et si vous êtes friand de bêtises humaines, vous serez servi à souhait, parce que là, il y en a à revendre.
Ah oui, là, vous parlez de nouilles froides à Pyongyang. Oui. Mais moi, je vous parlais du livre de Herman Melville. Vous n'avez pas fait de recherche à tout hasard.
Je serais étonné, parce que c'est un livre dont on ne parle jamais maintenant.
Ah, OK.
Bien sûr, Moby Dick est connu, mais Mardi...
Mon petit Jean-Sébastien, aurais-tu la gentillesse d'aller voir, s'il te plaît, si des fois Mardi de Herman Melville, j'imagine M.E.L., VI2LE, serait disponible. Il a peut-être été enregistré par... Non. Pendant ce temps-là, on jase. J'ai un très, très court extrait, si je peux me le permettre, Gérald, qui dit ceci. Aujourd'hui, la propagande répète, sans sourciller, que lorsque le guide se promène dans les champs, tous les arbres fleurissent à son passage, que la glace se fond sous ses après-skis et que les oiseaux gazouillent l'hiver en l'apercevant. Et s'il renverse un flacon d'encre sur une carte d'état-major, un typhon se déchaîne sur la région en question. C'est à chaque fois le maudit Japon.
Dans l'avion qui le ramène en France, l'auteur se demande, faut-il rire ou bien pleurer?
Oui, c'est ça.
C'est la question et je pense qu'elle reste en suspens.
Et là, tout d'un coup, j'allume que le Melville, c'est le Melville de Moby Dick.
Oui, bien sûr, le même.
Et là, tout d'un coup, je viens d'allumer. Évidemment, nous avons un Moby Dick, mais qui a dû être enregistré il y a maintenant pas mal de temps. Et malheureusement, nous n'avons pas Mardi.
Sans doute qu'il n'a jamais été demandé, alors.
C'est possible aussi. Bref, j'ai entendu dire que ce livre était un grand frisson d'effroi qui parcourt les Chines.
Oui, parce que, évidemment, nous, en occidental, on se demande, est-ce possible?
Est-ce possible?
Mais oui.
Est-ce que ça peut aller jusqu'à la mort? Est-ce qu'on assassine? On assassine beaucoup là-bas?
Oui, ben, il y a des camps de rééducation en Corée du Nord, on le sait maintenant. Oui. Amnesty International le sait. Des centaines de milliers de Coréens sont redressés, si je peux me permettre ce verbe, et on frissonne juste à l'employer. Mm-hmm. Ah oui, je veux dire, c'est vraiment Big Brother partout, partout, mm-hmm. partout, et on s'étonne qu'en 2015, un pays puisse encore vivre comme ça dans une espèce d'isolement total mm-hmm. du reste du monde.
Et s'il devait mourir, j'imagine qu'il a déjà, il y a déjà quelqu'un derrière qui prendrait le relais.
Hélas, pour l'instant, le grand-père a dirigé le pays, mm-hmm. puis le fils, maintenant le petit-fils. Alors, est-ce que le petit-fils aura mm-hmm. des enfants, lui aussi, ça finira donc jamais. C'est assez désespérant.
Oh là là. Bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Gérald, de nous avoir ouvert un petit peu les frontières de la Corée du Nord.
Ne serait-ce que pour ça, ça vaut la peine d'être lu, parce que les gens qui se font des idées, ben, je pense qu'ils seront mm-hmm. confortés dans leurs idées. Mais oui, ça existe, malheureusement, c'est là. Alors, il faut le savoir.
Et juste quelques mots pour finir, encore extrait de ce livre. De même, lorsque le maître s'approche de la frontière avec le Sud, une brume opportune l'enveloppe-t-elle pour absorber ses pas. Les sentinelles ennemies ne le tiendront jamais dans leur ligne de mire.
Tel quel. On n'invente pas.
Hein, si ça n'existait pas, il faudrait l'inventer. Je vous redonne le titre.
Merveilleux.
Nouilles froides à Pyongyang. À Pyongyang qui s'écrit, je vous le rappelle quand même, Pyongyang. De Jean-Luc Coatalem. Je vais me permettre aussi d'épeler le nom de famille. En fait, c'est comme ça se prononce. Donc, c'est plus facile qu'on pourrait le penser. C'est Coatale. M. Mais j'imagine que si on fait nouilles froides, de toute façon,
oui.
Sur le site...
Le père de ce monsieur serait, d'après ce que j'ai compris, malgache d'origine. Donc peut-être que le nom vient de là.
On comprend mieux. Merci beaucoup, Gérald. On se retrouve le mois prochain pour une autre chronique avec vous.
Ah oui, au plaisir.
Alors j'ai déjà hâte. Merci beaucoup.
Au revoir, Clotilde.
Et bonne fin de journée.
Merci.
L'invité spécial.
Aline Apostolska.
Clotilde Seille, bonjour.
On va essayer de se vouvoyer, même si ce n'est pas forcément facile, mais on peut se tutoyer aussi. Hein. Moi, j'aime mieux faire ça plutôt que de faire semblant.
C'est ça, mais c'est comme tu veux.
Alors, c'est parfait. Alors, Aline, on s'est connus à une certaine époque, radio-canadienne.
Absolument.
On a même déjà produit quelques émissions ensemble.
Tout à fait, avec grand plaisir. J'ai un très, très bon souvenir de tout ce que j'ai pu faire avec toi à Radio-Canada.
Et là, c'est en tant qu'auteur que j'ai voulu que tu viennes, parce que tu as bon nombre de tes livres qui ont été enregistrés en format adapté pour les non-voyants ou les gens qui ont des difficultés perceptuelles. Et notamment, j'avais hâte de tenir entre les mains le livre que tu as écrit sur et surtout avec Jacques Languirand.
Oui. Parce que cinquième chemin.
Ce sera ça maintenant, sa mémoire, parce qu'on a tous appris tétanisé que malheureusement il était en train de la perdre petit à petit. Il est atteint de la maladie d'Alzheimer.
Absolument, il a trois démences en fait, donc, dont celle de l'Alzheimer. Et oui, c'est ça, c'est les dernières choses qu'il ait dites, qu'il ait voulu dire. Il voulait pas finir sa vie sans que le livre existe.
Alors, vous-même, toi-même, tu me disais, et de toute façon tu le dis dans le livre, tu n'as jamais été au départ une grande fan, tu l'as jamais écouté beaucoup, mais tu as toujours, comme tout le monde, respecté énormément le bonhomme, parce qu'on savait tous quel homme de lettres il a été, quel homme de théâtre, on va en parler, quel homme d'écriture.
Oui, mais en fait, oui, mais pendant toute la... Parce que comme tu le sais, je suis ici, ça fait 16 ans que je suis au Québec. Ouais. Et non, je ne l'écoutais pas. Je n'avais aucune adoration, comme beaucoup de gens. Aucune détestation, comme beaucoup d'autres gens. Je partais plutôt d'un point neutre, avec un respect, oui, pour l'immense culture de cet homme. Puis des sujets aussi que je connais, dont j'ai pu traiter dans la vie. Ouais. Puis une certaine proximité de tempérament qui s'est révélée, parce que je ne le savais pas du tout, je le connaissais pas du tout. Puis lui et Nicole Dumais m'ont choisi parmi d'autres personnes. J'étais très 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 étonnée. D'ailleurs, je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont demandé moi? Et finalement, ça a été très simple. C'est parce que lui aussi partait d'un neutre avec moi. Il me connaissait sur le plan professionnel. Moi, je le connaissais sur le plan professionnel. On se connaissait pas du tout sur le plan privé. Mmh. Et finalement, on est parti d'un neutre, mais très, très vite, il m'a dit, je pense à la première rencontre, il m'a dit, je vais tout te dire. Puis il a décidé de me tutoyer, qu'il ne fait jamais. Et donc, voilà. Et j'ai quand même essayé de garder un peu de distance, puis de faire un travail de journaliste aussi.
Ouais. Mais c'est pas facile avec un homme comme Jacques Languirand qui a quand même... Donc, j'imagine qu'il y a des jours où c'était plus difficile que d'autres. Il y avait des jours où la mémoire était plus là que d'autres. Mais moi, ce que j'ai adoré dans ce bouquin-là, c'est qu'entre autres, vous dites que ça s'est beaucoup passé autour d'une table.
Oui.
Il y en a eu beaucoup,
oui.
Hein, des bons repas où oui. Il a été question en premier. Et là, je vais faire une corrélation avec Jean-François Lépine que je reçois la semaine prochaine. Jean-François Lépine, son parcours est indissociable de la mort de son frère. Mmh. Et Jacques Languirand, son parcours est quelque part un peu indissociable de la mort de sa mère. Au tout début, c'est dit clairement.
Oui.
Son père dit quelque chose de terrible au début.
Oui, il l'emmène sur la tombe de sa mère et il lui dit « En fait, depuis qu'elle est morte, nous sommes en enfer. »
C'est ça.
Et c'est une promesse d'enfer, en fait. Il lui promet le purgatoire à vie. Et bon, oui, bien sûr, la mère de Jacques est morte comme si elle avait défié un interdit parce qu'elle a eu une première fausse couche.
Oui.
Ensuite, elle a eu Jacques très difficilement. Puis, en fait, finalement, le troisième, elle est morte avec l'enfant. Et il avait 2 ans et demi. Et donc, bon, puis il parle de ça tout le temps. Il pense à sa mère tous les jours. Il en parle tous les jours, etc. Mais moi, il y a une chose qui est très, très importante aussi, qui a fait qu'on a beaucoup bien mangé. On s'est beaucoup adoré. Mais on s'est aussi beaucoup disputé parce qu'il y a le fait aussi que Jacques, Jacques Languirand, c'est quelqu'un qui dit quelque chose, puis les gens disent oui. Je lui ai dit, et moi, il dit quelque chose, et je lui dis, non, je pose une autre question. Parce que c'est pas des évidences. C'est-à-dire qu'à chaque fois, moi, je lui ai dit le premier jour, la seule chose qui m'intéresse dans le fait de travailler avec vous, parce que je le voyais, c'est de trouver votre moteur. Qu'est-ce qui vous fait fonctionner? C'est ça qui m'intéresse.
Ouais.
Parce que vos faits, les faits, c'est déjà sur Internet. La
Bien
vie
sûr.
Des faits, si c'est pour répéter ce qu'on sait déjà,
Bien
c'est
sûr.
Pas la peine.
Alors le moteur, c'est quoi?
Il a été... Ben son moteur, c'est vraiment, justement, c'est d'aller vers le moteur des gens et de la vie et des choses. C'est justement ça, Jacques Languirand. Et d'autre part, c'est quelqu'un qui a survécu à sa propre vie et qui a survécu à cette condamnation divine, quasiment divine,
du
de
père.
La mort de la mère. Qui a été reporté par le père, parce que si son père l'avait élevé autrement que dans l'adoration de la mort de la mère... forcément, parce qu'un enfant de 2 ans et demi, ça peut ne pas se rappeler. Mais on lui a fait porter ça. D'autre part, il a une relation épouvantable avec le père, qui est épouvantable avec lui. Il a une enfance extrêmement difficile, une adolescence extrêmement difficile. Et finalement, à 18 ans, il se sauve grâce à Charles Aznavour qui le rencontre, qui lui dit « Viens à Paris ». Boum, il prend le bateau, il part à 18 ans, boum, à Paris.
Et là, ça a été son... Comme
voilà,
son,
mais à partir de ce moment-là, il court plus vite que son ombre.
Okay.
Et c'est ça. En fait, Jacques Languirand, c'est quelqu'un qui a essayé de se construire de toutes pièces. Parce qu'il il a inventé sa vie de toutes pièces, mais finalement, il s'est reconstruit. Et c'est ça qui est pour moi le moteur. En même temps, c'est quelqu'un qui passe dans le spectre de ce que c'est que l'humain, et la psychologie de l'humain, etc., du pire au meilleur, par le meilleur, le pire. Et donc, c'est extrêmement important de pouvoir travailler avec lui. Finalement, au début, je me demandais qu'est-ce qu'il me voulait. Puis je me suis rendu compte que c'était un cadeau. Parce que à l'âge que j'ai, qui est le début de la cinquantaine, on est à un moment où, en plus, bon, je suis écrivain et je suis journaliste, et c'est le moment où quelqu'un comme lui peut vous dire vraiment qu'est-ce que, quand on est dans ces métiers-là, on ne peut pas ne pas l'écouter, parce qu'il a tout vécu de ces métiers-là. Il a tout vécu de la vie. Sa vie est parallèle à celle du Québec. Elle est aussi totalement parallèle à celle de la construction, de la communication, du théâtre en France. Et donc, il vous parle comme ça de son expérience. Lui et moi avons exactement 30 ans de différence. Et il dit des choses et vous avez vraiment l'impression qu'il vous dit un enseignement. Donc aussi, de tout ce qu'il a... compris en 50 ans de métier, en 60 ans de métier. Et donc, chacun va trouver dans la vie de Jacques Languirand un morceau qui va le concerner et qui va lui permettre de réfléchir à cet aspect-là de sa propre vie. Donc, il y a deux parties dans sa vie. Il y a la partie où il est extrêmement égocentré, qui va de 18 à 40 ans, où, en fait, il veut être connu, reconnu, comme écrivain, comme romancier, comme homme de théâtre.
Adam fait ça.
Et puis, bon, il est très, très dans l'image, il est à la télé, il fait toutes les grandes télés, etc.
Parce qu'il est beau. C'est
un, très beau.
C'est un beau mec. Non, mais je, il faut le dire, parce qu'à l'époque, il n'y a qu'une seule chaîne, quasiment. Bon,
bah oui, il y a Radio-Canada. Voilà. Mais ça. Parce qu'il est, c'est un homme incroyable. Il est de la première de toutes les premières. Il est à l'origine de l'ORTF. Il est à l'origine de Radio-Canada. Il est, fait la toute première et unique émission culturelle à l'étranger, de correspondant à l'étranger, de la culture canadienne à Paris. Il est, il rentre à la Comédie Française, puisque c'est ça son ambition. Il fait partie de la première réunion de ce qui va donner l'Union Européenne. Il fait, il est le premier à prendre le premier cours avec Bertolt Brecht.
Ouais.
Il, c'est incroyable cette vie-là. Ouais. En 1949 à Paris, puis en 1952 à Montréal, il est à l'origine de tout. Donc, oui, et puis c'est un super beau mec. Et puis,
d'ailleurs, il a eu du mal de rentrer de Paris. À un moment donné, il
beaucoup
vous
de
dit...
Mal, mais il ne veut pas rentrer de Paris.
Non, c'est ça. Il vous dit, quitter Paris, autour d'une table, encore une fois.
Ouais.
Quitter Paris a été la plus grosse erreur de ma vie.
Oui, mais parce que Jacques Languérand part à 18 ans pour ne jamais revenir. Il a cherché et il a eu une adolescence difficile et de délinquance et de privation et de frustration et de renvoi permanent de partout, des écoles, des collèges, de tout ça. Et donc pour lui, sa place, elle n'est pas ici. Il rentre dans les Compagnons de Saint-Laurent, dans une pièce de troupe de théâtre, il se fait renvoyer. Donc il n'a aucune place au Québec. Et donc pour lui, sa place est à Paris, d'autant qu'il arrive à Paris et toutes les portes ouvrent.
C'est ça, exactement.
Et donc lui, jamais il a voulu revenir au Québec. Jamais. Il est revenu parce qu'il est tombé gravement malade et aussi parce qu'il a une déception amoureuse grave, où sa première fille, en fait, qu'il ne verra jamais, qu'il n'a jamais retrouvée. Et on a cherché, toute l'année que j'ai passée avec lui, à parler avec lui, on a essayé de trouver, j'ai mis mon avocate parisienne sur le sujet, etc.
Vous ne l'avez jamais retrouvée.
Et, voilà, et on ne l'a jamais retrouvée. Et son ambition était de réunir ses trois enfants. Mais ça va être comme ça. Donc, oui, et trois fois, il a essayé de se réimplanter en France. Et en fait, trois fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, il avait des enfants. Il était une famille à charge. Son premier fils est né à Paris aussi, etc. Donc, il y a eu, oui, cette déchirure. Et en 60, début des années 60, finalement, il renonce à Paris. Il baisse les bras.
Est-ce que le théâtre n'a pas été une autre déchirure en ce qui
énorme.
Concerne... Énorme.
Ben, tu le sais, il le dit. Ouais. Et ça, c'est une chose. Parce que quand même, quelqu'un comme Jacques Languérand qui vous dit aujourd'hui, à 84 ans, j'ai raté ma vie... J'ai dit, waouh, mais d'accord, mais alors sur quel plan l'as-tu raté? Bon, il pense qu'il a raté une grosse partie de sa vie amoureuse et en particulier familiale et avec ses enfants. Bon, maintenant ça va mieux, mais ça a été, les relations avec ses enfants, c'est pas la joie.
Oui, avec sa fille Martine, hein, ça n'a pas été vraiment plus très facile.
Non plus, et finalement, pas reconnu à sa juste mesure comme le dramaturge, le cinéaste, et puis l'homme de théâtre et d'écriture qu'il aurait voulu être.
Mais enfin, ça doit le rendre heureux quand même d'avoir fait ses 40 et quelques années au micro de
Radio-Canada.
Ah non,
il est absolument... Tout à l'heure, j'ai pas fini ma phrase, c'est ça qui est cette partie de créateur comme créateur, où finalement, il réussit, mais pas à la dimension qu'il aurait voulu, puis il renonce. Mmh. Ensuite, il fait une très grave dépression.
Oui.
Et pendant la dépression, il commence à lire des choses pour se soigner lui-même. Donc la spiritualité, il fait une psychanalyse, il commence à s'intéresser à la psychologie, aux penseurs, à la philosophie, etc. Pour lui, pour se sauver la vie. Mmh. Et totalement, Radio-Canada l'a renvoyé 7 fois dans sa vie, de toute façon. Puis là, cette fois-là, il l'avait renvoyé, puis il n'était plus à l'antenne depuis presque 10 ans. Et là, un jour, on l'appelle et on lui dit, regarde, il y a un trou dans la grille.
C'est ça.
On devait avoir l'émission de retour de l'après-midi, 4 heures quotidiennes. Il dit, on a un trou, l'émission n'est pas prête, trouve quelque chose pour combler le trou.
Ouais.
Et
lui dit, pendant un mois de temps, au départ.
Voilà, oui, pendant un mois de temps, trouve quelque chose, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je sais pas, là, il a dit, moi, j'ai pris mes livres, puis je suis allée là, j'ai dit, si ça m'intéresse, ça va intéresser le public. Et il dit, oui, comment ça va s'appeler? 4 heures par quatre chemins. Et en fait, cette émission qui devait durer un mois a rencontré le public.
Oui, c'est ça.
Parce qu'en fait, ce qui était pour lui, finalement, était des réponses pour son public. Évidemment, l'émission a énormément évolué, mais c'est l'émission qui a eu le plus de codes d'écoute et qui l'a plus grande, la
et
plus grande
suite,
longévité.
Tout de suite, ça a été...
C'est comme le Québec l'attendait.
Ouais, c'est
et donc,
ça, hein.
À partir de ce moment-là, la deuxième partie de sa vie est consacrée au service.
Ah oui.
Et il y a une sorte de total renversement des choses. Il renonce au théâtre. C'est Robert Lepage qui va le prendre par la main et le ramener de force au théâtre. Ouais. Parce qu'en fait, il y avait renoncé. Il avait renoncé à être le créateur et être reconnu comme un créateur, il a renoncé à ça. Finalement, pour se consacrer, bon, à Parc à Chemin, et puis tout ce que ça impliquait pour le Québec, etc. Et c'est là qu'il a eu aussi sa notoriété. Il y a une rencontre, parce que tu sais très bien qu'il ne peut pas y avoir un succès aussi fulgurant, aussi énorme, et qui perdure pendant 43 ans, s'il n'y a pas quelque chose, c'est-à-dire si tu ne parles pas vraiment au public.
Mais je ne me souviens plus lequel a dit que finalement, il avait aussi retrouvé sa vocation théâtrale par le micro de Radio-Canada et que quelque part il théâtralisait beaucoup
énormément ses émissions. Il a créé son propre personnage.
Exactement. Comme la voix, elle n'a jamais été cherchée à être la voix de celui qui sait, mais de celui qui veut rassurer.
Oui, ça c'est vrai. Oui. C'est... parce que, évidemment, c'est un livre où je suis allée interviewer des tas de gens. Je n'ai pas parlé qu'avec Jacques.
C'est ça.
J'ai lu tout ce qu'il a écrit. J'ai lu tout ce qui a été écrit sur lui. Oui. J'ai écouté des dizaines d'heures de choses, de films, de trucs. J'ai interviewé une vingtaine de personnes, dont toute sa famille. Ses enfants n'avaient jamais parlé à personne. J'ai évidemment beaucoup travaillé avec Nicole Dumais, sans laquelle le livre n'existerait pas.
Qui est son grand dernier amour.
Oui, et qui est tout. Qui est tout. Elle est tout. À un moment donné, je fais la liste de ce qu'elle est. Ça tient sur un paragraphe. Parce que elle a été à la fois la productrice, elle a été à la fois, évidemment, elle est l'épouse, l'amante, la sœur, la mère, la fille, parce qu'elle est beaucoup plus jeune.
Il aurait dû dire secrétaire particulière, assistante, lectrice, contradictrice, orientatrice, productrice, chef recherchiste et assistante réalisatrice, attachée de presse, comptable, organisatrice, etc., etc. Et puis amoureuse, conjointe, voilà.
Exactement, exactement. Et sans Nicole, évidemment. Et donc, oui, parce que l'amitié s'est faite. C'est fait comme ça, il y a une sorte de reconnaissance. On ne sait pas pourquoi, les choses passent comme ça. Finalement, leur choix, qui était plutôt rationnel...
Voulez-vous être ma veuve ?
Ah là, voulez-vous être ma veuve, ça c'est extraordinaire.
C'est un beau titre et puis il y a aussi moi...
Ça c'est la demande en mariage.
Ça c'est la demande en mariage.
Quand Jacques lui demande Nicole Dumais en mariage, qu'elle a 45 ans et lui 67, et qu'il lui dit, les autres ont été mes maîtresses, mes épouses ou mes amies, voulez-vous être ma veuve ?
Oui, j'ai tellement aimé, c'est pour ça que je l'ai cité, cette phrase-là. Et puis il ne nous reste plus qu'une minute, c'est assez hallucinant, mais ça fait déjà 15 minutes qu'on parle... de Jacques Languirand. Je vous rappelle que je suis avec Aline Apostolska, qui a signé ce livre maintenant disponible. Aline Apostolska, Jacques Languirand, Le cinquième chemin. Il y a un vrai deuil, un premier deuil à faire, c'est le deuil de Radio-Canada. Pour lui, c'est terrible. Il nous reste combien ? Une minute à peu près, c'est ça.
C'est
horrible.
Mais c'est-à-dire les conditions dans lesquelles il est parti sont horribles. L'attitude de Radio-Canada à son égard. D'ailleurs, tu as vu que j'ai été très rationnelle. J'ai publié les lettres. Lettre qu'envoie Nicole Dumais et la réponse qui est donnée par la direction, le PDG de Radio-Canada. Et c'est une fin de non-recevoir. Il a passé exactement 64 ans à Radio-Canada et est parti sans un cent.
Exactement.
Donc, mais moi, j'ai pas. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles. Pas beaucoup. C'est un livre de journaliste, donc j'ai pas à faire de commentaires.
Non, c'est
Moi, j'ai eu accès à des documents, je les ai mis là, bang! Mais les lecteurs se feront leur propre...
Voilà. Et tous ceux qui ont écouté Jacques Languirand, à tout cela, ça fera très mal au cœur. Merci beaucoup, Aline Apostolska.
Merci beaucoup, à bientôt.
Vous écoutez À Livre Découvert avec Clotilde Seille et ses invités. Le bénévole du jour.
Moi, j'entends pas beaucoup. Pourquoi je m'entends?
Ah ben, nous sommes en onde, chère Carmen.
Ah,
alors, regardez, là, il y a la petite lumière rouge, mais que voulez-vous ?
Ça fait si longtemps,
mais c'est ça. J'ai tout oublié. J'ai même oublié mon texte chez moi. C'est pas possible.
C'est la voix de Carmen Lepage que vous reconnaissez. Là. Mais oui, mais Carmen, mais comment ça va ?
Ça va. Ça va aller mieux après,
Un petit problème d'ordinateur, mais c'est pas grave, vraiment.
La technologie, on est trop dépendant, vraiment.
Mais ça fait rien. Revenons-en à la littérature. Vous êtes toujours aussi passionnée de bouquins, même si on vous a perdu ici, pas de façon quotidienne, mais de façon hebdomadaire à l'émission. Vous continuez de lire bénévolement ici, à voix haute, et vous continuez de lire beaucoup pour vous aussi, pour votre culture générale et pour votre propre plaisir. Vous arrivez aujourd'hui avec un livre que je ne connaissais pas non plus, que vous allez nous présenter d'ailleurs, le titre et l'auteur.
Oui, c'est un livre qui curieusement n'a pas eu une très grande visibilité dans la presse écrite ou même autrement. Il y a eu quelques interviews que j'ai attrapées sur Internet. C'est un livre d'un Français qui est dans la cinquantaine et qui vit dans le monde chinois depuis plus de 20 ans. Il est déjà à son quatrième roman et je pense que celui-ci gagnerait à être connu. On n'a pas fait, dans aucun journal québécois, on a fait des critiques sur ce livre-là.
Alors, nommons-le.
Alors, il s'appelle Stéphane Fière et le roman s'appelle Une Chinoise ordinaire.
Alors, Fière comme une femme fière.
Oui, exacto féminin.
Voilà, exactement. Mmh. Stéphane voilà. Avec un E, Une Chinoise ordinaire.
Alors, c'est un auteur qui a fait d'abord, qui s'est intéressé au chinois en faisant des études de chinois et de sciences politiques à Harvard. Et puis, il a mené une carrière professionnelle entre les États-Unis et l'Asie. Il vit maintenant à Pékin, mais il connaît bien la réalité de Shanghai où il a vécu d'abord. Stéphane Fière est marié à une Chinoise. Ça aide beaucoup à connaître la Chine, oui. À s'adapter surtout. Et il parle couramment le mandarin. Il a donc une expérience concrète de la réalité chinoise dont il parle d'ailleurs dans ses quatre romans. Et celui-ci est censé être le deuxième d'une trilogie. Donc, je ne vous parlerai pas tellement de la trilogie parce que c'est le seul qui est lu et disponible pour nos abonnés.
Quel dommage. Il va falloir qu'on passe une petite demande pour que les autres le soient aussi. Ce serait bien.
Voilà. Alors, le roman commence par « Moi, j'aime l'amour », dit dès le début Ai Ling Guo, la narratrice du roman de Stéphane Fière, une Chinoise ordinaire. Prostituée de luxe, Ai Guo gère sa carrière comme une vraie chef d'entreprise depuis son appartement, établit une grille de tarifs très précis, jongle avec son agenda grâce à son téléphone cellulaire. Donc, c'est une Chinoise résolument moderne. Mm-hmm. Et ce téléphone cellulaire, c'est son outil de travail, en quelque sorte. Et le soir, elle va dans les karaokés. Parce que la prostitution en Chine, ça fonctionne aussi dans les salons de massage, mais aussi dans les karaokés.
Ah oui?
Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous en parlerai tout à l'heure, mais je vais continuer avec le résumé. Alors, dans la première partie du roman, elle fait des confidences à un interlocuteur invisible qu'on n'entend jamais, qui ne réplique jamais. Et vraisemblablement, ça serait quelqu'un envoyé par une maison d'édition pour éventuellement écrire une biographie de la femme en question, qui n'est pas du tout ordinaire à ce moment-là, du moins dans la première partie. Alors, on a cette femme qui se confie de façon très spontanée, c'est la langue parlée. Je l'ai lu en studio, c'est assez difficile par moment à lire parce que elle est dans un enthousiasme, une exubérance absolument incroyable et pas beaucoup de ponctuation. Par contre, il y a des interruptions constantes par des courriels, des SMS de ses clients. Et à un moment donné, elle fait un deal avec un client et puis elle revient à sa narration, à sa vie. Alors, on comprend pourquoi elle est devenue prostituée. Et ce qu'on comprend essentiellement, c'est qu'elle est très ambitieuse, elle aime l'argent. Et comme femme, quoi faire quand on n'a pas d'instruction, qu'on vient de la campagne, parce qu'à l'origine, elle vient de la campagne. Alors, ça se passe à Shanghai au tout début. Après, elle va aller à Pékin parce que c'est mieux d'aller à Pékin si on veut faire beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, elle fait de l'argent et ça fait tout à fait son affaire. Elle consomme allègrement à l'occidentale. Elle sort en boîte avec ses amis. Et puis, à travers tout ça, elle n'a pas l'air du tout d'être complexée. Elle assume totalement le métier qu'elle fait. Elle se sent bien. Elle dit, moi, j'ai eu la chance d'être belle et je profite de cet atout que la nature m'a donné et ça me permet d'avoir de l'argent et de faire beaucoup d'argent. Effectivement, elle a des clients très riches. Les clients, ce sont des étrangers, des amis étrangers qu'on appelle là-bas des Laolai. Laolai, oui. Ce sont des amis étrangers expatriés. Et c'est sûr que à certains moments, elle va servir comme beaucoup de prostituées, de confidentes. Elle va avoir des gens et des clients qui sont un peu tristes, qui ressentent ce vide de l'existence. Et elle va se mettre à le ressentir tout à coup aussi. Et plus dans la deuxième partie. Parce que dans la deuxième, troisième et quatrième partie, le roman est en quatre parties, elle va larguer l'intervieweur et elle va se mettre à écrire en disant qu'elle est capable de le faire. Alors, elle va, à ce moment-là, être beaucoup plus réflexive sur sa vie, sur le sens de sa vie. Et là, on sent qu'elle change, elle est en train de s'humaniser. Et puis, progressivement, peut-être qu'on rejoint, elle est en train de devenir la Chinoise ordinaire du titre.
Mais est-ce que le personnage sur de lui commence à se fissurer en quelque part?
Oui, ou, exact. C'est exactement ça. Elle se fissure et ce qui aide à faire craquer la carapace, c'est que elle vit dans un appartement très luxueux, dans un très beau quartier de Pékin. Et c'est l'arrivée d'un nouveau propriétaire et qui la trouble, mais vraiment. Alors qu'elle n'a jamais voulu se marier. Mm-hmm. Et d'ailleurs, elle est hors norme de ce point de vue-là parce que, et ça me donne l'occasion de parler de cette espèce de sous-produits que représentent les femmes, c'est-à-dire dans la mesure où, en Chine, une femme, c'est un mauvais placement.
Ah oui.
Si elle ne se marie pas. Et sa mère lui fait des pressions. Sa mère, la mère chinoise, est présente dans le roman, et c'est intéressant d'ailleurs, fait des pressions sur elle pour qu'elle se marie, qu'elle ait des enfants, et ainsi de suite. Et elle ne veut rien savoir, elle veut garder sa liberté.
Mais il y a ce bonhomme qui arrive.
Et à ce moment-là, elle est ébranlée. Bon, et on va voir comment ça va évoluer. Je vous dis rien parce qu'il y a des choses à découvrir à travers ça.
Par contre, j'apprécierais un petit extrait parce que vous savez que l'heure tourne, il nous reste encore un bon gros 2 minutes à peu près.
Ah,
mais oui.
Alors,
j'apprécierais
écoute,
un extrait
c'est,
de...
C'est intéressant de voir que chaque chapitre commence par « moi, j'aime ».
Okay? Ah, OK.
Alors, je vous ai dit « moi, j'aime l'amour oui. ». Évidemment, bien sûr, elle parle de son travail de prostituée. C'est le sexe, finalement.
Oui,
c'est
la, oui.
C'est pas du tout l'amour romantique. Et dans le deuxième, elle dit « moi, j'aime la vie ». Enfin, entendons-nous, pas la vie en général, notion abstraite et dépourvue de consistance, née la vie à sens unique et qui s'écrase dans le mur, pas plus que celle des animaux ou des espèces en voie de disparition, et encore moins la vie de ceux qui se pavanent, s'exhibent et brassent des litres d'air dans les pages culturelles des magazines. Non, 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 la vie des autres ne me concerne pas. Moi, j'aime ma vie. Alors, on voit comment elle est centrée sur elle. Hein. Le lait de ma mère ne goûte plus de ma bouche depuis longtemps. Je sais exactement ce que je veux et comment y parvenir. Très éloignée de ma nature, les atermoiements, le doute ou l'appréhension, les scrupules aussi. Je suis une jeune femme bien dans sa peau, bien dans son temps et qui exulte de santé, bonheur et prospérité. Dans ma vie, le plus important, c'est quoi? Alors, la question est posée, voilà, déjà dès le deuxième chapitre. Est-ce que j'ai le temps de lire un autre extrait?
Oui, il nous reste une petite minute.
OK. Moi, j'aime rêver. Troisième chapitre. Oui. Enfin, entendons-nous, pas les rêves de nuit dont personne ne se souvient jamais, mais qui laissent les draps trempés, ni les rêves de gloire ou de puissance, à moi le pouvoir de l'argent, les honneurs, ni les rêves matériels qui enfument les têtes et ravagent les cœurs dans tous les temples, les rêves de loterie. 10 maisons ici, 20 voitures là-bas, 30 haillis, au pied de mon lit. Les haillis, ce sont les servantes. Mm-hmm. Non, 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 pas de ces délires terrasseurs de conscience. Moi, je n'ai que des rêves de plein jour, les rêves qui soutiennent la vie. Et je vous laisse découvrir ce qu'elle va dire dans le quatrième. Qu'est-ce qu'elle aime dans le quatrième? On verra.
D'accord.
Merci
beaucoup. Je vous rappelle que c'était Carmen Lepage que nous avions beaucoup de plaisir à retrouver aujourd'hui, qui nous présentait Une Chinoise ordinaire de Stéphane Fier. Stéphane avec un E à la fin. Et Fier comme une femme fière, et non pas comme un homme fier. Carmen, on se retrouve bientôt?
Oui.
Je prépare une petite émission spéciale là,
oui.
pour la centième prochainement. Alors,
ah là,
on
déjà?
S'en... Oui, déjà. On va s'en reparler. Merci d'avoir été là.
De bouche à oreille, une page de littérature.
La semaine prochaine, mes amis, je reçois Jean-François Lépine, journaliste, spécialiste de géopolitique, un homme de terrain qui se raconte dans le livre « Sur la ligne de feu », livre qui a été lu, qui est maintenant disponible. Le mieux, c'est peut-être de laisser parler Jean-François lui-même, qui en a fait un petit résumé et qui nous dit ceci. « Pendant 42 ans à la télévision et à la radio, j'ai toujours eu à portée de main un de mes carnets de notes. À l'écran, il faisait partie de l'image. Quand Marc Lorando m'a invité à participer à sa magnifique série radiophonique « Nos témoins sur la ligne de feu », consacrée aux correspondants de Radio-Canada à l'étranger, j'ai eu envie de redécouvrir et de raconter, à travers les anecdotes tirées de ces carnets, les grands moments de mes expéditions sur la planète, quitte à en être bouleversé. Durant ma vie de journaliste, j'ai couvert deux référendums qui ont déchiré les Québécois. J'ai vu des foules gagner leur liberté, contre l'apartheid en Afrique du Sud, contre l'Empire soviétique en Europe. J'ai vu, dit-il, les enfants palestiniens contre les chars israéliens, les Arabes contre leurs dictateurs. J'ai vu les Chinois rejeter Mao pour partir à la conquête du monde. J'ai vu la guerre au Liban, en Irak, en Iran, en Afghanistan. J'ai vu le monde changer. Issu du parcours noté dans mes carnets, « Sur la ligne de feu », écrit Jean-François Lépine, est un portrait personnel de l'état du monde et de son avenir. C'est un livre dans lequel je suis plongée avec une curiosité et avec une passion que vous ne pouvez même pas imaginer. En voici un très court extrait. « La vie de correspondant à l'étranger, c'est probablement ce qu'il y a de plus extraordinaire pour un journaliste. Parce que, comme diraient les Chinois, on est d'abord loin de l'empereur, du patron ou du rédacteur en chef. » On est seul à gérer son bureau, ses projets, seul à la tête d'une petite entreprise. C'est un défi, puisqu'on est aussi seul à en assumer les risques et les échecs possibles. Mais c'est certainement intéressant sur le plan de la liberté. Et en plus, la vie en poste à l'étranger, surtout quand le pays est exotique, c'est le bonheur de découvrir constamment quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais vu, d'explorer de nouvelles frontières. C'est littéralement, et ça m'a tellement amusé, le mythe de Tintin dans son application la plus entière. J'aurai l'occasion donc de pouvoir parler de cela avec Jean-François Lépine la semaine prochaine. Il y a un autre livre aussi, si vous voulez, dont je pourrais vous parler dès maintenant, qui sera présenté par Gaston Loubier. C'est « L'enfant de Noé » d'Éric Emmanuel Schmitt. L'histoire, c'est un enfant de 7 ans qui est arraché à ses parents pour pouvoir survivre. Nous sommes en 1942, les rafles commencent. André, parce qu'il est juif, se trouve confié à des inconnus qui l'obligent à travestir la vérité. Virtuose du mensonge, comme tous les enfants cachés, il va apprendre à taire son nom, à taire son histoire, à taire ses sentiments. Et tel Noé pendant le déluge, il a décidé de sauver l'humanité malgré elle, contre elle. Alors qu'adviendra-t-il d'André et de tous ces enfants de Noé pendant la guerre qui seront sauvés, entre autres par le père Ponce qui a décidé de sauver l'humanité? Eh bien, c'est ce que ce livre nous permet de découvrir. Sur la quatrième de couverture, on nous dit « Nous allons conclure à marcher, veux-tu ? Toi, Joseph, tu feras semblant d'être chrétien et moi, je ferai semblant d'être juif. Ce sera notre secret, le plus grand des secrets. Toi et moi pourrions trahir, toi et moi pourrions mourir de trahir ce secret. Jurer, jurer. » C'est un livre absolument bouleversant. J'ai un très, très court extrait ici. « Tu deviens chrétien lorsque tu estimes que Jésus est bien fils de Dieu, quand lui, Dieu s'est incarné, est mort et est ressuscité. » Donc, pour les chrétiens, ça s'est déjà passé. Pour les juifs, c'est à venir. Voilà, Joseph. Les chrétiens sont ceux qui se souviennent et les juifs, ceux qui espèrent encore. Alors, un chrétien, c'est un juif qui a cessé d'attendre? Cet extrait de « L'enfant de Noé » d'Éric Emmanuel Schmitt, qui sera présenté la semaine prochaine à l'émission « Un livre découvert » par Gaston Loubier.
Des nouvelles et des livres.
Et là, je me demande si je n'ai pas oublié un papier de l'autre côté, mais ce n'est vraiment pas plus grave que cela. Vous savez, je vous en parle depuis déjà quelques semaines de ce travail incroyable qu'a fait Pierre Foglia de répertorier vos 100 meilleurs livres. Quels sont les livres qui vous ont marqué le plus ? Ce sont les livres, s'il faut en croire, les lecteurs de la presse, qu'on devrait tous avoir lus. Bien sûr, tout cela est subjectif, sans doute que vous ne seriez peut-être pas d'accord avec certains choix, comme je ne le suis pas moi-même, et comme Pierre Foglia ne l'est pas. Pierre Foglia, qui entre autres, je me rappelle très bien, dans cet article-là, se disait qu'il se serait passé personnellement du Petit Prince de Saint-Exupéry, que pour lui, ça n'a vraiment aucun rapport. Mais quand même... alors, je vais vous lire un extrait de cet article-là que je viens de retrouver. Alors, il écrivait, Pierre Foglia, c'était le samedi 28 février 2015. Il y a 13 497 titres et le gagnant, le titre le plus souvent cité est... 1984 de George Orwell, dont nous parlions justement un peu plus tôt avec Gérald Cousineau. Vous vous rappelez les glauques premières pages ? Nous demande Winston, pas Winston Smith, qui est le héros, mais Pierre Foglia. Donc, Monsieur Smith, le héros, rentre chez lui. Il habite au 7e et l'ascenseur est en panne. Et à chaque palier, il y a une immense affiche qui montre un homme d'environ 45 ans aux traits accentués et beaux. Big Brother vous regarde, dit l'affiche. Si, au lieu d'I Foglia de 1984, le titre était 2015, ce pourrait être sur l'affiche la photo de Harper ou celle de Couillard ou celle de Poutine ou celle d'Obama ou de celui-là, là, du Venezuela, là, j'oublie son nom. Mais non, je n'exagère pas. C'est un roman sur quoi, 1984 ? Ça parle de quoi ? Ça parle du contrôle de la réalité. C'est un livre d'une effrayante actualité. Je vous félicite pour de vieux lecteurs. Vous n'aurez jamais été aussi actuel. Et puis finalement, le Petit Prince n'arrive qu'au 28e rang. Mais bon, ne triomphons pas trop, dit Foglia. Il est d'autres inévitables romans comme La vie devant soi, Harry Potter, l'attrape-cœur, L'écume des jours et même La route de McCarthy, même Le grand cahier de Christophe, même La Storia, tous très bien classés dans votre liste qui sont pleins de petits princes. Le Petit Prince étant une maladie de la littérature comme la myxomatose est une maladie du lapin. L'idée était de dresser la liste de vos 100 livres préférés, la voici donc. Si j'y ai fait des découvertes, demande Foglia, pas une seule, c'est normal, rien de plus convenu qu'une liste. Ainsi convenait-il tout à fait que vous ne passiez pas à côté du Voyage au bout de la nuit, de L'étranger, de Madame Bovary, des Misérables, de Don Quichotte, tout de même 87e sur 100. Vous avez bien failli oublier Don Quichotte. J'aurais eu un peu honte, dit Foglia. Je crois être pour quelque chose dans quelques-uns de vos choix les moins convenus, justement. Cela n'est pas surprenant non plus. Cela fait 40 ans que je vous invite à lire moins de Coelho et de Millennium. Il me revient de vous avoir chaudement recommandé La fiancée américaine, Les années, Les bienveillantes, L'équilibre du monde. Merci pour L'équilibre du monde. Vous ne soupçonnez pas comme cela me fait plaisir de le retrouver dans notre top 20. Alors, les 5 premiers livres qui ont donc été cités comme étant certainement les plus lus par les lecteurs de la presse. Donc, en premier, il en fait référence, Foglia, 1984, George Orwell. Ensuite, c'est Émile Ajar, Romain Gary, La vie devant soi. Et puis, c'est 100 ans de solitude qui arrive en troisième de Gabriel Garcia Marquez, Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline et Les bienveillantes de Jonathan Little. Alors voilà, les 5 premiers, 1984, La vie devant soi, 100 ans de solitude, Voyage au bout de la nuit et Les bienveillantes. Amusez-vous peut-être à vous poser la question, combien en avez-vous lu sur ces 5-là ? Personnellement, je vous le disais, je n'en ai lu que 3. Les bienveillantes, j'en suis à ma 4e tentative de me lire. Je me dis que je vais finir par comprendre ce qui fait que tout le monde a craqué pour ce bouquin. Alors je m'accroche, je m'accroche et c'est le cas de le dire. Je vous tiendrai au courant. Quant à Voyage au bout de la nuit de Céline, oui, c'est celui que je n'ai pas lu. Je ne sais pas pourquoi, je ne parviens pas à ouvrir ce bouquin, mais apparemment j'ai tort, j'ai très 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 tort.
Quelques nouveautés en rafale.
But tomorrow the world will see we did nothing, Frank Song Soo Chi. 2008, Amnesty report, Burma. Burma is one of the poorest countries in the world, but one of the richest in jewels, drugs, tech, petrol, natural gas,
Total's pipeline gives the military junta more than $1 million a day. This song is dedicated to Aung San Suu Kyi, her democratic party, the monks, the students, the people of Burma, the children. This is a plea for Aung San Suu Kyi.
Oui, c'est Jane Birkin qui avait enregistré cette chanson il y a quelques années sur Aung San Suu Kyi. Bon, moi je dis Suu Kyi, elle dit Suu Kyi. Cette femme qui porte un pays, un destin sur ses frêles épaules. Nous parlons de The Lady en Birmanie. C'est le livre Aung San Suu Kyi qui vient d'être enregistré pour vous et signé Jesper Bengtsson. C'est un journaliste, il est auteur, il est membre de la branche suédoise de Reporters sans frontières et il couvre l'actualité de la Birmanie depuis plus de 10 ans. Il a réalisé pour cet ouvrage un incroyable travail de recherche et il a collecté de nombreux témoignages, dont celui d'Aung San Suu Kyi elle-même en 2011. Alors, cela vous permet de découvrir le destin exceptionnel de cette femme devenue une icône nationale et le symbole de la lutte pour la liberté. Aung San Suu Kyi qui a consacré sa vie à son combat politique, qui s'est dévouée à la cause du peuple birman au détriment de sa propre existence, de son enfance marquée par son père, le général Aung San, qui était déjà une figure légendaire du pays, à ses années d'enfermement imposées par la junte et dont il est largement fait référence dans la chanson de Jane Birkin, qui nous demande à un moment donné « mais qui s'en soucie et qu'est-ce qu'on a fait pour elle lorsqu'elle était enfermée ?» Bref, ce monsieur Bengtsson nous dresse le portrait d'une femme hors du commun, libre et intransigeante. Il rend hommage à cette femme qu'on appelle aussi « the lady » et qui quelquefois aujourd'hui est un peu plus décrié qu'à cette époque-là. C'est quelqu'un qui tient beaucoup de son père. Un petit extrait en page 109 de ce livre. Aung San Suu Kyi signifie littéralement « étrange collection de brillantes victoires ». Elle est née un mardi et dans la tradition astrologique birmane, chaque jour de la semaine est également associé à certaines qualités personnelles. En tant qu'enfant du mardi, Suu Kyi est censée être honnête et dotée d'un grand sens moral. Son père était né un samedi, ce qui signifiait qu'il serait un fauteur de troubles au tempérament fougueux. La croyance dans la signification du jour de naissance est forte en Birmanie et il est extrêmement probable que les attentes des parents et des autres adultes influencent la personnalité développée par les enfants, tout comme les exigences sociales influent sur la façon dont nous développons ce qu'on appelle des traits typiquement masculin ou féminin. Aung San Suu Kyi, ça s'écrit en 4 mots, AungSanSuuKyi, un pays, une femme, un destin, par Jesper Bengtsson, BengTsson. Ici, Radio était Radio-Canada d'Alain Saunier, un livre dont on a énormément parlé. Ce livre qui n'est ni une vendetta, ni un regard nostalgique d'Alain Saunier sur le passé de Radio-Canada. C'est ce qu'affirme l'ancien DG de l'information au réseau français. Même si le diffuseur public est considérablement affaibli par les décisions de la direction actuelle, Alain Saunier croit qu'il n'est pas trop tard pour agir. Ici était Radio-Canada, c'est un pavé dans la mare qui pose de sérieuses questions sur l'indépendance de la société d'État, sa mission et les intérêts du gouvernement canadien qui a tendance à se considérer comme le patron de la grande tour. Alors au menu de ce bouquin, l'importance d'un service de nouvelles indépendant et impartial, les dangers de l'ingérence politique au sein du service de l'information, la pression financière et le financement publicitaire, l'importance de repenser la mission et le mandat de Radio-Canada et les causes et les possibles solutions de la crise actuelle pour le diffuseur. Il y a eu une entrevue, il a accepté de rencontrer Nathalie Collard de La Presse qui lui a demandé, entre autres, en lisant ce livre, plusieurs penseront qu'il s'agit d'un règlement de compte à l'endroit du président de Radio-Canada, Hubert Télacroix, qui vous a congédié. Est-ce le cas ? Il a répondu à Alain Saunier, « Les gens qui me connaissent savent que ce n'est pas mon style. Ce que je dénonce, c'est ce qui est en train de se produire. À l'heure actuelle, il y a une trop grande dépendance de Radio-Canada au pouvoir politique. Vous montrez du doigt le gouvernement conservateur, mais le Parti libéral n'a pas été plus généreux à l'endroit de Radio-Canada. » La réponse de M. Saulnier, je cite Solange Chaput-Roland qui disait « Je n'ai pas connu un premier ministre canadien qui n'ait pas tenté un jour ou l'autre de museler les journalistes de Radio-Canada ». C'est vraiment à lire « Ici était Radio-Canada » d'Alain Saulnier. Pédigré de Patrick Modiano. Patrick Modiano, prix Nobel de littérature 2014. Ce livre-là, Un pédigré, a été enregistré par point par point. Rappelons d'abord au sujet de M. Modiano qu'en 1978, il a reçu le prix Goncourt pour le livre Rue des boutiques obscures. En 2000, il a reçu le grand prix de littérature Paul Morand pour l'ensemble de son œuvre. Alors ce livre-là, Un pédigré, il le présente ainsi. J'écris ces pages comme on rédige un constat ou un curriculum vitae à titre documentaire et sans doute pour en finir avec une vie qui n'était pas la mienne. Les événements que j'évoquerai jusqu'à ma 21e année, je les ai vécus en transparence. Ce procédé qui consiste à faire défiler en arrière-plan des paysages alors que les acteurs restent immobiles sur un plateau de studio. Je voudrais traduire cette impression que beaucoup d'autres ont ressentie avant moi. Tout défilait en transparence et je ne pouvais pas encore vivre ma vie. Signé Patrick Modiano, donc extrait de Un pédigré, également disponible maintenant. Il me reste une petite minute. J'ai envie de vous parler d'un bouquin qui s'intitule « Le jour où j'ai arrêté d'être grosse ». Je me suis tellement demandé de quoi il s'agissait. Eh bien, il s'agit de Valérie, une jeune fille drôle et exubérante, une fille brillante, qui un jour a décidé d'arrêter d'être grosse. Un an plus tard, elle avait perdu 130 livres. Elle a rencontré une autre femme, une journaliste très intéressée par ce bout de bonne femme absolument attachant. Et c'est un livre qui peut vous faire rire, qui peut aussi parfois nous faire brailler, où il est dit toutes sortes de choses, comme par exemple, un petit rappel, c'est pas parce que t'es mince que t'es en santé, c'est pas parce que t'es gros que t'es malade, c'est pas parce que t'es mince que tu suis un régime, puis c'est pas parce que t'es gros que tu manges mal, c'est pas parce que t'es mince que tu prends soin de toi. C'est pas parce que t'es gros que tu veux perdre du poids. On a toujours tendance à l'oublier. La taille et l'apparence d'une personne ne donnent pas un portrait complet ni juste de son bien-être. Elle s'appelle Marianne Prairie et Valérie Fraser, c'est celle qui a décidé d'un jour où elle arrêterait d'être grosse. Valérie Fraser, F-R-A-S-E-R. Je m'appelle Clotilde Seille. J'animais pour vous sur Canal M l'émission À Livre Découvert. Je remercie Jean-Sébastien Laliberté et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.